VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du jeudi 17 août 2017. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
Le secrétaire général de l'ONU estime nécessaire des enquêtes complémentaires pour identifier formellement les auteurs des meurtres de deux experts onusiens en République démocratique du Congo.
En Sierra Leone, observation d'une semaine de deuil national en hommage aux centaines de morts après les pluies torrentielles de lundi à Freetown.
Au Nigeria, attaque par des hommes lourdement armés contre le siège de la Commission des crimes économiques et financiers à Abuja.
Le Zimbabwe veut l'immunité diplomatique pour la première dame Grace Mugabe, accusée d'agression contre un mannequin en Afrique du Sud.
Ici aux États-Unis, poursuite des critiques contre le président Donald Trump après ses dernières déclarations sur les événements de Charlottesville en Virginie.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Des enquêteurs de l'ONU chargés d'élucider les meurtres de deux experts de l'organisation en mars dernier en République démocratique du Congo jugent que des investigations complémentaires sont nécessaires pour identifier formellement les auteurs de ces crimes. Dans une lettre datant du 15 août et adressée au Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, souligne que les conclusions des enquêteurs, selon lesquelles des investigations et des procédures judiciaires supplémentaires seraient nécessaires pour identifier avec certitude l'identité, les affiliations et les mobiles des individus impliqués dans les meurtres de l'Américain Michael Sharp et de la Suédo-Chilienne Zaida Catalan. En mars, ces deux jeunes experts qui enquêtaient sur les violences et sur des fosses communes au Kasaï ont été assassinés. La jeune femme a été décapitée.
En Sierra Leone, les habitants observent une semaine de deuil national en hommage aux morts, dont plus de 100 enfants emportés par les coulées de boue et les inondations qui ont frappé lundi Freetown. Le point avec Solange Nyamulisa.
Les drapeaux ont été mis en berne sur le bâtiment public du pays. À midi, une minute de silence a été observée dans la capitale. Les efforts se poursuivent pour retrouver les corps de 600 disparus, parfois à l'aide d'engins de chantier, parfois avec des outils de fortune. À la morgue centrale, les habitants tentent d'identifier leurs proches dans des amas de corps. Abdoul Nassir de la Croix-Rouge internationale a expliqué que quand les os se sont retirés, ils ont trouvé 15 corps mutilés en décomposition sous un pont effondré à Lumlé, un quartier du bas de la ville inondée lundi. Il pense que le bilan sera plus élevé que les 312 morts officiellement recensés. Des responsables à la morgue centrale de la capitale sierra-léonaise parlent déjà d'au moins 400 morts. Mohamed Siné Camara, un employé de la morgue, a précisé que ce service a reçu les corps des 105 enfants. Selon Adèle Fox, coordinatrice santé pour l'ONG Concern Worldwide, il y a un besoin en nourriture, en eau, en équipement sanitaire et en aide médicale. Compte tenu de la saison des pluies, d'autres inondations sont encore possibles, a-t-elle prévenu. L'aide internationale a commencé à arriver en Sierra Leone à l'intention des milliers de survivants, désormais sans abri.
Au Nigeria, le siège de la Commission des crimes économiques et financiers à Abuja a été attaqué mercredi par des hommes lourdement armés qui ont tiré sur la façade et dans le parking sans faire de victimes, apprend-on de sources officielles. Des détails avec Anastasie Tudiech.
L'attaque a eu lieu mercredi matin vers 5 heures heure locale. Selon les autorités, les assaillants se sont enfuis en déposant une lettre de menace de mort à l'encontre d'Ishaku Charou, l'un des principaux enquêteurs de la commission. Monsieur Charou est en charge de nombreux dossiers compromettants pour plusieurs personnalités politiques et militaires nigérianes de premier plan. L'incident survient quelques semaines après la tentative d'assassinat d'un autre inspecteur, Austin Okwar, à Port Harcourt. Depuis 2 ans, l'agence anticorruption enquête sur les détournements présumés commis par de nombreux responsables politiques et des sociétés parapubliques. D'énormes sommes d'argent ont été saisies, des propriétés confisquées, mais peu d'affaires ont abouti à des condamnations en justice jusqu'à présent.
La Cour pénale internationale doit rendre aujourd'hui une ordonnance de réparation pour la destruction des mausolées de Tombouctou par un djihadiste malien. Le Touareg Ahmad Al-Faki Al-Mahdi a été condamné en septembre à 9 ans de prison pour avoir dirigé intentionnellement des attaques en 2012 contre la porte de la mosquée Sidi Yahya et contre 9 des mausolées de Tombouctou dans le nord du Mali.
Un comité de soutien regroupant des artistes, des personnalités et des journalistes a demandé hier la libération du correspondant de RFI au Cameroun, Ahmed Abba. Notre confrère, qui clame son innocence, a été condamné à 10 ans de prison pour, je cite, « non-dénonciation d'actes de terrorisme et blanchiment d'actes de terrorisme ». L'appel du comité de soutien a été lancé à la veille de la première audience du procès en appel qui était prévue ce jeudi et qui a été finalement reportée. Ahmed Abba avait été arrêté le 30 juillet 2015 à Maroua, dans l'extrême nord du pays où sévit Boko Haram. Il était soupçonné par les autorités camerounaises d'avoir collaboré avec le groupe djihadiste nigérian et de ne pas avoir partagé les informations qu'il détenait.
Les autorités zimbabwéennes ont requis l'impunité diplomatique pour la première dame Grace Mugabe, accusée d'agression contre un mannequin en Afrique du Sud. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Selon les détails livrés hier par le ministère sud-africain de la police, Grace Mugabe avait initialement convenu avec les autorités de se présenter d'elle-même mardi dans un commissariat de Johannesburg. Cet arrangement devait lui permettre de présenter sa version des faits avant que le parquet ne se prononce sur l'ouverture éventuelle d'une enquête. Elle y a par la suite renoncé et décidé d'invoquer l'immunité diplomatique en tant qu'épouse du président Robert Mugabe. Le ministre de la police a aussi précisé que la première dame du Zimbabwe n'a pas quitté le territoire sud-africain, comme le disent certains médias. Madame Mugabe est accusée d'avoir frappé et blessé Gabriela Angel, une mannequin qui se trouvait dans le même hôtel qu'elle, dans un quartier de Johannesburg. Cette affaire menace de perturber les relations traditionnellement bonnes entre l'Afrique du Sud et son voisin. Hier, des négociations étaient toujours en cours entre les deux pays pour trouver une issue à cette embarrassante affaire.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, poursuite des critiques contre le président Donald Trump après qu'il a renvoyé dos à dos les suprémacistes blancs et les contre-manifestants après les violences raciales meurtrières du week-end dernier à Charlottesville, en Virginie. Les deux anciens présidents Bush ont publié un communiqué commun disant que l'Amérique doit toujours rejeter les préjugés raciaux, l'antisémitisme et la haine sous toutes ses formes. De leur côté, un large éventail de leaders américains, dont les principaux officiels républicains, PDG et chefs militaires, ont condamné le racisme après les événements de Charlottesville. Et le président Donald Trump a dissous deux de ses conseils économiques après la vague de démissions de PDG qui protestaient ainsi contre ses déclarations à ce sujet. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Donald Trump a utilisé un tweet, son canal préféré. Il a ainsi annoncé la dissolution de deux des instances l'entourant pour le conseiller en matière de politique économique. Le chef de l'exécutif américain a expliqué que c'était pour mettre fin aux pressions exercées sur les responsables d'entreprises de son conseil. Les médias américains prédisaient l'autodissolution du Conseil sur l'industrie et le Forum de stratégie et de politique. Les deux comités restreints de la Maison-Blanche avaient été formés après l'élection du président Trump et réunissaient chacun une vingtaine de PDG. Il existe un troisième cénacle économique, le Conseil des exportations, mais sa création remonte à 1973. Il a pour mission de conseiller le président des États-Unis sur sa politique commerciale. Donald Trump est soumis à de fortes critiques, y compris au sein de son propre camp républicain, pour avoir envoyé dos à dos les groupuscules suprémacistes blancs impliqués dans les violences de Charlottesville et les contre-manifestants. Un des sympathisants de l'extrême droite a tué une jeune femme dans les rangs des manifestants antiracistes en la fauchant avec sa voiture.
Et à ce sujet, une foule nombreuse a rendu hommage hier à la victime, Heather Heyer, lors d'un service religieux suivi d'une veillée à la bougie ponctuée par des chants d'espoir dans la soirée. Auparavant, dans un tweet, le président Trump avait qualifié Heather Heyer de jeune femme vraiment spéciale.
Le président sud-coréen Moon Jae-in a assuré aujourd'hui qu'il n'y aurait pas de guerre dans la péninsule coréenne en dépit des tensions exacerbées autour des programmes nucléaires et balistiques nord-coréens. Tous les Sud-Coréens ont travaillé si dur pour reconstruire le pays qui était en ruine après la guerre de Corée, a déclaré M. Moon lors d'une conférence de presse marquant ses 100 premiers jours à la présidence. La situation s'est considérablement tendue dans la région après les récentes menaces de Pyongyang et mises en garde de Washington.
Le roi Salman d'Arabie Saoudite a ordonné l'ouverture de la frontière pour permettre aux Qataris d'effectuer le pèlerinage de la Mecque, a annoncé mercredi l'agence officielle de presse saoudienne. Cette décision a été annoncée après que le roi Salman a reçu un émissaire de Doha pour la première fois depuis la rupture des relations avec l'émirat le 5 juin, en même temps que les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte. Ils ont accusé le Qatar de soutenir des groupes extrémistes et de se rapprocher de l'Iran chiite, le grand rival du royaume sunnite.
Un inconnu s'est fait exploser hier en point de contrôle du Hamas dans la bande de Gaza, a annoncé le mouvement palestinien. Et une source médicale a indiqué qu'un membre du Hamas avait été tué dans l'attentat. Selon des sources au sein des services de sécurité de la bande de Gaza, l'auteur de cet attentat suicide serait un extrémiste islamiste. Le Hamas, lui-même un mouvement islamiste, gouverne la bande de Gaza depuis une décennie. Il est régulièrement critiqué par des groupes plus extrémistes actifs dans ce territoire.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Blanche Sanou.
En Égypte, le projet d'une nouvelle ligne de tramway à grande vitesse devrait permettre de réduire de 30% la circulation dans les nouveaux districts entourant le Caire. Ce réseau est le fruit d'un accord à 1,24 milliard de dollars entre le ministère égyptien du transport et deux groupes chinois. Les experts estiment que la ligne pourra transporter jusqu'à 340 000 passagers par jour. Nouveau départ pour la compagnie Niger Airlines, le transporteur s'est imposé comme une compagnie sûre et fiable. En plus du transport de 10 000 passagers en 2016, Niger Airlines a assuré l'aller-retour des 12 000 pèlerins nigériens à la Mecque. Avec un nouvel effectif de 58 personnes en 2017, la compagnie vise un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros contre 2,3 millions en 2016. Au Cameroun, des négociations sont en cours entre une délégation de la Confédération des chocolatiers et confiseurs de France et les autorités du pays sur la possibilité de mise en place d'unités locales de transformation du cacao. Par ailleurs, le Cameroun ambitionne de produire 600 000 tonnes de cacao à l'horizon 2020.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Voilà, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Encore un titre pour le Real Madrid.
Déjà vainqueur 3-1 en Catalogne, le Real Madrid a aisément remporté la Supercoupe d'Espagne après un nouveau succès hier soir contre le Barça au stade Santiago Bernabéu. 2-0, Asensio et Benzema, les buteurs madrilènes. Encore une décima pour le Real Madrid. Après la 10e Ligue des Champions remportée en 2014, les Merengues se sont adjugés la 10e Supercoupe d'Espagne de leur histoire.
Suspension confirmée pour Cristiano Ronaldo, justement.
Oui, c'était le grand absent hier soir sur la pelouse de Santiago Bernabéu. La Fédération espagnole de football a rejeté hier l'appel concernant la suspension de Cristiano Ronaldo, qui écope donc bien de 5 matchs de suspension après avoir poussé l'arbitre qui l'a expulsé lors du match aller. Ronaldo fera son retour lors de la 5e journée le 20 septembre face au Betis Séville, ce qui ne va certainement pas plaire à son entraîneur Zinedine Zidane, qui s'est dit contrarié mardi par l'ampleur de la sanction.
Suite des barrages de la Ligue des Champions en Europe.
Hier soir, Naples s'impose à domicile 2-0 contre Nice. À Istanbul, le FC Séville s'impose 2-1 contre le Başakşehir. Et puis l'Apoel Beersheva, le club israélien qui domine Maribor de Slovénie 2-1. Le carton de la soirée, le Celtic Glasgow qui domine 5-0 l'Astana du Kazakhstan. L'Olympiakos du Pirée qui domine 2-1 le club croate de Rijeka.
Transfert pour terminer.
Oui, l'attaquant ghanéen Kevin Prince Boateng a décidé de résilier son contrat avec Las Palmas pour des raisons personnelles. Il était arrivé au club à l'été 2016. L'international ghanéen a inscrit 10 buts en 28 apparitions en Liga la saison dernière. Il avait prolongé son contrat pour 3 années supplémentaires en mai. Et puis le milieu de terrain français Blaise Matuidi qui s'engage avec la Juventus Turin. Sa vente, estimée entre 20 et 25 millions d'euros, permet au club parisien de commencer à compenser un peu le transfert record des 222 millions d'euros déboursés pour attirer Neymar, le délestant aussi du salaire mensuel estimé à 750 000 euros bruts par mois pour Blaise Matuidi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Kenya, Raila Odinga a décidé de contester en justice la victoire du président Uhuru Kenyatta à la présidentielle de la semaine dernière. L'opposition prêchera la paix tout en se réservant le droit de manifester, a prévenu le principal opposant kényan. Le reportage de Jill Craig à Nairobi, présenté ici par Michel Joseph.
Depuis la publication vendredi des résultats de la présidentielle, Raila Odinga avait appelé les membres de sa coalition, NASA, à attendre incessamment ses instructions quant à la conduite à tenir. Mercredi, le principal adversaire du président Kenyatta a mis fin au suspense, annonçant qu'il comptait porter devant la Cour suprême la question de ce qu'il a appelé une élection volée. Il avait pourtant exclu cette possibilité dans ses déclarations passées.
By going to court, we are not legitimizing misplaced calls.
En saisissant la Cour, nous ne légitimerons en rien les appels déplacés de certains observateurs à concéder la défaite, mais nous voulons donner à ceux qui ont bravé les longues queues et le froid matinal et qui ont attendu tout l'après-midi du 8 août, les mères avec les enfants au dos, les malades, les handicapés, jeunes et vieux, une chance d'être entendus.
People with disabilities, old and young, a chance to be heard.
Affirmant que le système électronique électoral a été piraté, Odinga a intitulé son intervention de mercredi « Les Kenyans disent non aux leaders générés par ordinateur ». La saisine de la Cour suprême est la meilleure option pour lui et sa coalition NASA, estime Herman Manioa, professeur à l'Université de Nairobi.
I think this will be the best.
Premièrement, cette approche atténue l'anxiété et la tension dans le pays et les quelques 14 jours que durera le recours judiciaire suffiront pour que les gens se remettent et agissent après réflexion et non sous le coup de l'émotion. C'est comme lorsque l'on s'accorde le temps de porter un deuil.
Raila Odinga a dit qu'il était initialement réticent concernant le recours judiciaire parce que le gouvernement cherchait à faire taire toutes les voix dissonantes. Il a cité la tentative des autorités kényanes de fermer deux ONG ayant fait état d'irrégularité dans le scrutin du 8 août. La coalition NASA présentera ses preuves devant le monde entier à travers la procédure judiciaire, a promis le chef de file de l'opposition kényane, qui n'exclut pas de futures manifestations.
We will preach peace, and you have done so.
Nous prêchons la paix ainsi que nous l'avons fait et nous ferons valoir notre droit de nous rassembler et de manifester. Nous organiserons des veillées, des moments de silence pour pacifiquement attirer l'attention sur les grossières injustices électorales et réclamer réparation.
Selon la commission électorale kényane, le président Uhuru Kenyatta a été réélu avec 54,3% des voix contre 44,8% à Raila Odinga.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, le point sur le dernier attentat terroriste au Burkina Faso, mais aussi sur les nouvelles menaces djihadistes en Afrique. Pourquoi le Burkina est-il visé? Quels sont les autres pays désormais pris pour cible? Les États africains ont-ils les moyens de lutter contre les groupes djihadistes? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Le choléra au sud Kivu, en République démocratique du Congo, selon le ministre provincial de la Santé, le docteur Mwanza Nangunia, 167 cas ont déjà été enregistrés en milieu hospitalier, dont 2 décès en 2 semaines. Une trentaine de malades suivent des soins dans un centre de traitement gratuit à Bukavu. Mais le caucus des femmes congolaises du Sud Kivu pour la paix, une organisation de promotion des droits de la femme, plaide pour l'ouverture d'autres centres de traitement en milieu rural pour arrêter la propagation du choléra. De Bukavu, capitale du Sud Kivu, Ernest Mouero fait le point.
Dans la capitale du Sud Kivu, un centre de traitement gratuit du choléra vient d'être rendu opérationnel à l'hôpital général provincial de référence de Bukavu. À notre arrivée sur le lieu, un peu en isolement, c'est l'odeur du chlore servant de désinfectant qui nous chatouille les nez en guise d'accueil. Dans deux salles contiguës assez larges, nous trouvons allongés les hommes, femmes et enfants, l'air déshydraté et le regard dans le vide. Le ministre provincial de la Santé, Moïse Nangunia, appelle la population à veiller à l'hygiène
à toute la population de Bukavu d'observer les mesures d'hygiène, en commençant par l'hygiène de l'eau. Lorsque vous avez un cas de diarrhée et de vomissement, il faut amener le malade à l'hôpital général de Bukavu où il sera pris en charge gratuitement.
Pour le caucus des femmes congolaises du Sud Kivu pour la paix, le Sud Kivu a 8 territoires en plus de la ville de Bukavu. La secrétaire exécutive du caucus des femmes, Solange Loachiga, estime qu'il faut encore plus de stratégies. D'autres centres de traitement gratuits tels celui de Bukavu devrait être opérationnel pour les populations en milieu rural.
Comme c'est au début, je pense qu'il y a lieu d'élargir les réflexions. Il y a les zones périphériques de Bukavu qui sont déjà concernées. Il faut que les gouvernants mettent en place des stratégies pour faire en sorte que ce choléra ne puisse pas être répandu. Mais aussi, il faut qu'on approvisionne les hôpitaux parce que comme on a dit à Bukavu, c'est au niveau de l'hôpital général de référence de Bukavu seulement. Mais cet hôpital pourrait être débordé, commencer à approvisionner les autres institutions sanitaires.
Au sujet de l'ampleur de la propagation du choléra, le ministre Moïse Nangunia précise qu'il y a déjà 2 morts et 167 personnes contaminées et conduites en milieu hospitalier.
Depuis des semaines, nous connaissons une flambée des cas de choléra sur presque toute l'étendue de la province du Sud Kivu. La zone de santé de Fizi passe en tête avec 77 cas. Nous sommes à environ 35 cas dans la ville de Bukavu. Et jusqu'ici, nous avons 2 cas de décès dans les structures médicales. Il peut y avoir d'autres cas, mais qui n'ont pas été déclarés.
Il ajoute que sur les 15 zones de santé du Sud Kivu, 7 sont déjà affectées par cette maladie infectieuse, dite maladie des mains sales. En attendant que le gouvernement du Sud Kivu déclare officiellement cette épidémie, les spécialistes de la santé publique en province disent être impressionnés par la vitesse des contaminations du choléra en l'espace de plus ou moins 2 semaines. Ernest Mouero, Bukavu, VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Au Tchad, la hiérarchie de l'Église catholique de N'Djamena dénonce l'occupation anarchique d'un terrain qui lui avait été octroyé pour la construction d'une basilique. Ce terrain, béni par feu Monseigneur Mathias Ngarteri, chef de l'Église catholique du Tchad, peu avant sa mort, est occupé aujourd'hui par les vendeurs de sable, de gravier, de briques et de voitures d'occasion. Le point avec André Kotmadjingar.
C'est un espace d'une superficie de 960 mètres carrés situé dans la commune du 7e arrondissement de la ville de N'Djamena, au bord du fleuve Chari, qui a été cédé à l'église catholique du Tchad par l'État tchadien. La première pierre pour la construction de la basilique pouvant accueillir un grand nombre de fidèles comme les premières églises chrétiennes a été même posée par le président de la République Idriss Déby Itno le 5 avril 2013. La construction de cette basilique serait faite sur le financement de l'État tchadien, mais 4 ans après, les travaux n'ont toujours pas commencé à cause de la crise économique et financière que traverse le pays. Dès lors, le terrain est exploité à d'autres fins. Djitangar Gedbe Edmond, archevêque de N'Djamena, dénonce cette pratique.
Le terrain est aujourd'hui squatté par des marchands de sable, de gravier, des briques fabriquées en creusant le sol même du terrain et des vendeurs de voitures d'occasion. Nous y avons déjà célébré la bénédiction des rameaux le 9 avril 2017. Une croix a été ensuite plantée comme premier signe pour marquer le caractère sacré de ce lieu. Mais les marchands de sable n'en ont pas fait cas.
Pour beaucoup de fidèles catholiques, ces petits commerçants, vendeurs de produits de carrière et véhicules d'occasion exploitent ce site sacré avec la complicité des autorités de la commune du 7e arrondissement municipal de la ville. Le premier maire de la dite commune, Dr Alaïssam Siad Madi, donne les raisons qui ont amené son institution à exploiter cet espace.
Aussitôt après la pose de la première pierre, nous avons enregistré 7 cas d'assassinat dans cet espace. Mon titulaire de l'OPOC a mené une réflexion avec certains cadres. Il est question qu'on exploite provisoirement en attendant la décision de construction de la basilique pour éviter les défécations à l'air libre et les différents cas d'assassinat. Mais on s'est rendu compte que cette décision a profité l'installation de certains marchands en désordre.
Le maire de la commune du 7e arrondissement informe par ailleurs qu'avec l'interpellation de l'archevêque de N'Djamena, ils seront délogés de force. Car, précise-t-il, sur instruction du gouverneur de la région de N'Djamena, l'ordre a été donné 2 fois de suite à ses exploitants de quitter le lieu.
Malheureusement, ils sont têtus et ils sont restés jusqu'à là. Donc actuellement, ils se sont installés dans l'illégalité. Ce qui nous reste à faire, je crois que si nous trouvons un petit moyen pour louer une niveleuse, nous serons dans l'obligation d'aller utiliser les graviers hautes là pour niveler le terrain là, et les faire partir de force.
Et pourtant, ces exploitants payent des droits de place. Mais à qui profite cet argent? Personne ne répond. André Godmadjingar N'Djamena, VO Afrique.
VO Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Ici aux États-Unis, les incidents de Charlottesville en Virginie, où une femme de 32 ans a été tuée par un militant d'extrême droite, a relancé le débat sur les statues et monuments rendant hommage aux soldats confédérés. Il serait au moins 718 à travers les États-Unis, surtout dans le sud. Pour une analyse, Abdourahmane Dia a joint Ibrahima Seck, historien sénégalais et directeur de recherche du musée Whitney Plantation à la Nouvelle-Orléans.
Je crois que ces groupes extrémistes appartiennent à un groupe beaucoup plus large de gens, originaires du Sud, mais peut-être pas tous, qui jusqu'à présent ne peuvent pas digérer leur défaite dans la guerre civile et qui ne peuvent concevoir aucune forme de promotion ou d'égalité des droits avec les Noirs qui étaient leurs esclaves. Ils vivent dans le passé, ils restent dans le passé, et tout est bon pour avoir une sorte de revanche sur l'histoire. Ces statues qu'ils protègent aujourd'hui ont été construites, bien sûr, pendant la période Jim Crow, c'est-à-dire pendant la période de ségrégation raciale, pendant qu'ils lynchaient les Noirs et qu'ils leur déniaient les droits les plus élémentaires. Ils ont aussi construit des monuments pour glorifier les soldats du Sud, les grands dirigeants du Sud.
Oui, justement, le Sud a perdu la guerre de sécession. Pourquoi ces statues se retrouvent toujours dans des espaces publics et non peut-être dans des musées, comme le recommandent certains?
C'est la faute au Congrès américain, c'est la faute à la Cour suprême, mais aussi à l'exécutif, parce qu'ils ont passé tout leur temps, depuis les pères fondateurs, que ce soit George Washington ou Thomas Jefferson et les autres qu'on glorifie aujourd'hui, ils ont passé tout leur temps à violer la Constitution américaine. L'esclavage est une violation flagrante de la Constitution américaine. Alors, même après l'esclavage, qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, ici à la Nouvelle-Orléans, c'est ici qu'est né le cas Plessis contre Ferguson. Le fameux cas de jurisprudence qui a légitimé la ségrégation raciale.
La ville de Baltimore, dans le Maryland, a démonté ses statues la nuit de mardi à mercredi. Vous pensez que d'autres villes vont suivre?
Absolument, d'autres villes vont suivre et c'est un processus irréversible. Ça a commencé par la Nouvelle-Orléans. Curieusement, tout commence par la Nouvelle-Orléans. Parce que la majorité est pour que ces monuments-là soient démontés et transportés ailleurs. C'est un mouvement irréversible. Vous voyez tous ces extrémistes qui se démènent comme de beaux diables. C'est comme un animal qui meurt. Un animal qui meurt bouge beaucoup, mais il va mourir sûrement.
C'était l'historien sénégalais Ibrahima Seck, joint à la Nouvelle-Orléans.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
C'est
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sevudia et d'Anne Albertson à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.